d'aujourd'hui.
Les gars, aujourd'hui, on parle de bouffe.
Yes,
c'est je suis avec Antoine à ma droite, comme à ma gauche. Je suis très content de faire ce podcast aujourd'hui. Je le dis dans chaque épisode, mais je suis content à chaque fois en fait. Et aujourd'hui, on va parler de bouffe, on va parler de nourriture, on va parler de restauration. Donc je vais vous laisser vous présenter déjà. Qu'est-ce que vous faites là et pourquoi je vous ai invité en fait?
Yes, déjà merci pour l'invitation, ça fait trop plaisir.
Avec plaisir.
Voilà. Moi du coup, je suis sous-chef de L'Orion dans le 11e. On a ouvert il y a 6 mois, voilà, j'ai fait l'ouverture avec eux. Et voilà, vous êtes venu manger hier soir, je crois que vous avez kiffé.
C'était très bon.
Très bien.
Antoine, c'était bon?
Excellent.
On va en reparler tout à l'heure, mais voilà. Donc, comme chef, sous-chef.
Sous-chef, voilà, j'ai été chef au bistrot chez lui dans le 11e avant d'être à L'Orion. Et on s'est connus à La Rochelle.
Parce que comme il vient de La Rochelle.
Aussi. Voilà.
Et Antoine, pourquoi t'es là? Grand amateur de bouffe,
exactement. Je suis chef de projet dans la publicité à côté. Mais effectivement, ouais, grand amateur de bouffe et surtout ami de Jules.
Ami,
merci encore pour l'invitation.
Écoute, avec plaisir. C'est quoi votre rapport à la bouffe? C'est la question que je pose à tout le monde sur le thème. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème-là? Et c'est quoi pour vous la bouffe? Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est quoi ce rapport à cette partie-là?
Ouais, je commençais par répondre. Compliqué parce que moi, j'ai pas vraiment. Tu vois, moi personnellement, je me fais jamais à manger pour moi. Tu vois, c'est vraiment dédié aux autres. Quoi. C'est vraiment. Moi, je considère la cuisine comme un art. Vraiment, j'ai aucune honte à le dire. Je le crie haut et fort. C'est pas juste un métier d'artisanat, c'est un métier artistique. Et moi, voilà, c'est tous les jours, c'est ça, je crée, je le prends vraiment comme un truc hyper artistique, quoi.
Et toi, attends, c'est beau.
Beau. Moi, mon rapport à la bouffe, c'est surtout une question de plaisir. Moi, j'ai pris le mauvais pli de ne plus faire trop à manger chez moi. Mais par contre, aller au restaurant de manière régulière pour justement essayer de découvrir certains aspects, certaines cuisines... Et tous ces aspects-là, ouais, effectivement, c'est le côté plaisir.
Et vos premiers rapports à la bouffe, à l'âge où vous avez compris que c'était quelque chose d'exceptionnel et que c'était quand même important, ça a été quand? Pourquoi? Toi, comme le déclic?
Moi, je pense que le déclic, ouais, il a été justement à La Rochelle, où mon premier boulot, c'était chez Christopher Coutenceau, pardon, qui est un chef qui était 3 étoiles Michelin quand j'y étais, qui est maintenant 2 étoiles. Et j'ai goûté des... Alors, c'est un peu strange, mais j'ai goûté des sauces de dingue là-bas. vraiment des sauces, j'étais là, ok, il y a vraiment un... Alors, c'est vraiment... On peut pas goûter ces sauces dans n'importe quel restaurant, mais voilà, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un univers en cuisine qui était immense, qui avait vraiment aucune limite.
Des choses à faire.
Vraiment plein de choses à faire et que... Voilà, moi j'avais travaillé dans beaucoup de bistrots aussi, dans beaucoup de restaurants un peu plus traditionnels. Et voilà, il y a vraiment un autre univers. Voilà, quand on parle d'étoiles Michelin, quand on parle de restaurants gastronomiques ou même bistronomiques, voilà, on parle beaucoup de restaurants bistronomiques maintenant. Ouais, il y a un gros game.
C'est tes premiers liens avec la bouffe, quoi, où t'as découvert un peu.
Ouais, la vraie bouffe.
Ouais, vraiment.
Ouais.
Et toi, Antoine?
Bah ouais, la vraie bouffe, je pense que ça a été familial avant tout. Donc, que ce soit les repas de famille, tout ça. Et après, ça a été en déménageant à Bordeaux, la diversification de...
Grosse ville,
surtout, voilà, pouvoir manger à peu près, enfin, tous les types de restauration, dans tout type de restaurant. Ouais, c'est à ce moment-là où tu te dis, ouais, on va commencer à chiner un peu de bols d'arrêt, À trouver de bons trucs, ouais. Et après, sur Paris, ça accélère un peu aussi.
Comme tu disais que tu travaillais dans un bar de quartier qui s'appelle L'Orion. D'ailleurs, ouais. Bistrot de quartier.
Ouais.
Oui, bar,
ouais.
Pardon. Attends, pour moi, c'est pas la même chose. On parlait qu'on allait manger hier, on s'est régalé. Il y a une grosse tendance, une grosse trend aujourd'hui sur le retour de cette cuisine un peu locale de quartier. T'en penses quoi de ce retour? On parle des bouillons, de cuisine plus traditionnelle, tu vois, qui reviennent. T'en penses quoi de cette... Je vais pas dire une nouvelle mode parce que ça a toujours existé, mais ce retour-là et le fait que la jeunesse aussi se...
Ouais, grave. Alors, pour parler de ça, tu sais, je pense que c'est venu après le Covid. Je sais pas vraiment pourquoi ça s'est fait à ce moment-là, mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience ou même voilà, pendant le Covid aussi, il y a le réchauffement climatique, il y a cette envie de faire mieux, de faire avec des produits plus locaux, avec des produits, de bons produits de base, hein, parce que voilà, une bonne cuisine, c'est aussi des bons produits de base. Donc oui, bistrot de quartier, ça veut tout rien dire. C'est bistrot de quartier, voilà, pour moi, c'est travailler des produits locaux avec voilà, des fournisseurs où on est super proche, on est vraiment super proche de nos fournisseurs. Moi, tu vois, pour la viande, par exemple, on travaille avec Guillaume, c'est un mec qui tient une ferme, et il se ramène avec son camion et on lui prend la viande au cul du camion, quoi, à l'ancienne.
Faut préciser aussi que ta carte change tous les jours.
Ouais, la carte
donc,
change
c'est ça
tous
qui
les
est
jours,
très important
midi et
aussi
soir. Ouais.
dans tes fournisseurs.
Ouais. Voilà, et puis bah ouais, c'est ça. Je pense que c'est un état d'esprit qu'il faudrait instaurer, mais même pas que dans les restaurants, même chez soi, il faudrait s'alimenter dans les petites boutiques qui proposent des produits locaux. Alors après, évidemment, c'est pas forcément des prix toujours accessibles pour tout le monde,
Ouais.
mais même au marché, hein, c'est même au marché. Le marché de Belleville, les légumes seront moins chers que dans ton Franprix
Au bout
à
de
côté de
rien.
chez toi.
Et toi, Antoine, en tant que plus côté client,
Hein.
est-ce que c'est important pour toi en tant que consommateur aussi d'avoir ce rapport-là
À la
à cette sorte
proximité.
de commerce de proximité, ouais.
Ouais, à la proximité, ouais, surtout, bah, il y a le côté évidemment bouffe à proprement parler, où tu t'aperçois que tu vas redécouvrir par exemple certains plats parce que t'as fait pas mal, je sais pas, de cuisine japonaise ou voilà, de cuisine étrangère. Après, au final, tu te retrouves dans des bistrots où tu vas goûter ouais, des vraiment des produits locaux, en t'apercevant aussi que bah, en fait, à côté, t'as quand même des trucs qui sont sympas, et bah, tu t'es toujours amené à découvrir. Donc c'est ce côté intéressant. Ouais.
Il y a aussi, je pense, cette chance, tu l'as dit, pour Bordeaux, mais on peut le dire aussi pour Paris, c'est cette diversité et ce choix de nourriture et de bouffe qu'on peut avoir à chaque coin de rue. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers, tu vas dans une rue, tu peux manger tout, j'exagère, mais pratiquement toute la cuisine du monde. Je sais pas ce que vous en pensez sur cette diversité-là, toi tu l'as retrouvée à Bordeaux, mais on peut bouffer de tout.
Bah, c'est ça. Bah, par exemple, à Belleville, où est situé l'Orion, restaurant, voilà, il y a une cantine africaine à 100 mètres, il y a plein de restaurants chinois, japonais, il y a les Algériens à 200 mètres, les Turcs à 300 mètres, voilà, les Juifs un peu plus loin. Voilà, surtout dans des quartiers comme ça, très populaires comme Belleville, c'est vrai qu'on trouve de tout, et c'est ce qui est chouette avec Paris. Ouais.
Bah, tu me parles de Belleville, mais toi, par exemple, tu as tout le côté street food, etc., où tu peux manger un peu sur le pouce, où voilà, tu manges allez, en 30 minutes, 45 minutes, mais par contre, tu découvres des trucs qui sont vraiment pas mal. Donc, ouais, et en plus, ça t'affine un peu, on va dire, le palais. Tu découvres des trucs, ouais, à la base, t'es pas forcément sur le projet, mais tu te dis au final, c'est une belle découverte. Ouais, on a quand même cette chance à Paris, en tout cas, et après dans les grandes villes en général, d'avoir une offre vis-à-vis de la bouffe qui est toujours
Après,
encore plus diversifiée, quoi.
je pense aussi qu'il faut avoir l'état d'esprit de se dire je vais sortir de ma zone de confort
Ouais.
et je vais aller goûter des trucs que je connais pas du tout parce que je sais pas à quoi ça ressemble, je sais pas qu'est-ce que ça sent, comment c'est. Il faut avoir ce truc de bah, je sors et bon, on verra ce qui m'arrive, mais je goûte tout ce que je peux goûter, tu
Ouais,
vois.
totalement, c'est ça. Moi, je te disais, je me fais jamais à manger pour moi. Donc c'est moi, je suis tout le temps à manger dehors, à droite, à gauche. Et voilà, moi, quand je vais manger à Belleville, donc que ce soit voilà, cantine africaine ou chez les Turcs, chez les Rebeux, moi, j'y vais aussi pour évidemment pour goûter, mais aussi pour c'est une expérience, quoi. C'est un, comment dire, tu vois, c'est vraiment, on est vraiment dans le, comment dire, on est vraiment au pays, quoi. Enfin, on est vraiment dans le truc, tu vois. C'est pas comme, tu vois, il y a beaucoup de petits restaurants qui ouvrent dans le troisième, dans le deuxième et tout, mais là c'est pas pareil. Là, c'est à Belleville, on est vraiment dans le sujet, quoi.
Et c'est plus important aussi pour
Ah
manger.
bah carrément.
C'est quoi les grosses tendances que vous voyez en ce moment qui tournent autour de la bouffe, des restaurants, des recettes? J'ai un exemple, c'est les cordons bleu panés. Bon, bref, ça c'est un truc, on parlera des réseaux après et des TikTok de bouffe parce que ça explose. Mais c'est quoi les trucs actuels que vous voyez qui vous ont surpris ces derniers temps?
Pas forcément qui m'ont surpris, mais t'en parlais il y a 2 minutes. C'est le fait que voilà, des mouvements un peu style bouillon, ça revient en force. Et aussi, bah, vu le contexte actuel, on essaye de manger pour bon pour pas cher, hein, évidemment. Et tu as beaucoup d'offres comme ça qui sont faites sur les réseaux sociaux, où tu vas découvrir voilà, certaines adresses où tu te dis, bah, pour tel prix, tu vas avoir ça, ça et ça. Et c'est beaucoup, beaucoup mis en parallèle avec les prix. C'est surtout cette tendance-là. Pas forcément sur la diversité de ce qui est offert, mais surtout sur le prix. Et après, tu peux trouver, ouais, évidemment, des trucs qui sont intéressants.
Grosse tendance aussi de l'apparition, ce qu'on disait, de la bouffe sur TikTok, enfin, sur les réseaux, ça a toujours existé. Avant, c'était les blogs, etc. Aujourd'hui, il y a des centaines de médias spécialisés food. Est-ce que vous, ça vous influence à aller dans un endroit? Est-ce que vous en servez pour découvrir de nouvelles adresses? Toi, dans ton resto, tu me disais que tu avais des médias qui passaient aussi. Ça peut donner aussi de la visibilité, plus bah, quand t'es côté restaurateur. Qu'est-ce que vous pensez de ce truc-là?
Bah, de quoi des médias par
Des
rapport
médias par rapport
à
à
la
la
food?
bouffe, ouais, c'est
Ouais.
ça.
Bah maintenant c'est hyper important. Voilà, c'est hyper important. Il faut trouver un équilibre, si tu veux. Il faut pas non plus
Pas que ça devienne
trop.
n'importe quoi.
Faut pas non plus que ça devienne n'importe quoi. Il faut pas. Je te dis, il faut pas oublier que c'est des métiers
Difficile.
artisanat, difficile. Je sais pas, difficile.
Bah, t'es passionné, toi, donc
Mais
évidemment.
en tout cas, ouais, des métiers d'artisanat, des métiers très artistiques. Et il faut pas tomber dans ce truc, voilà, il y a beaucoup de petites affaires qui ouvrent, c'est juste des mecs qui sortent d'école de commerce, et après je critique pas, mais voilà. Alors après, par rapport aux réseaux sociaux, évidemment, moi ça m'influence à fond, que ce soit dans la créa, que ce soit je te dis, dans la création des cartes, ou même voilà, pour des restos qui ouvrent dans le quartier. C'est vrai que sur Instagram, tac, tu vois ça, évidemment ça joue, ouais.
Moi, je me positionne plus en tant que client. On est tout le temps à la recherche de nouvelles
Ouais.
perles rares, comme tu disais tout à l'heure. Toi aussi, ça t'en... enfin, toi aussi, tu
Bah
regardes, c'est ta première source d'inspiration pour aller trouver le resto que
ouais.
personne connaît pour bien manger.
Ouais, il y en a deux. Il y a le bouche à oreille. Et en
Aussi.
général, en fait, tu t'aperçois que le bouche à oreille, il vient forcément quasiment systématiquement des réseaux sociaux. Et ouais, évidemment, après, tu fais ton tri. Mais ouais, effectivement, tu vois de plus en plus passer des adresses, des bons plans. Donc forcément ça va t'influencer dans le choix de là où tu vas aller manger le vendredi soir. Tu te dis bah tiens on pourrait tester partir sur cette formule on va dire. Et ouais, et après en fait ça y a aussi un côté dans les réseaux sociaux pardon où tu pars d'une adresse, tu vas t'intéresser à un sujet,
Oui.
à peut-être une cuisine et en fait tu vas aller de fil en aiguille à d'autres adresses et au final tu arrives à te faire un bon panel.
Et du coup, ça influence donc pour le consommateur, mais aussi toi, comme en tant que chef, elles viennent d'où tes inspirations pour tes recettes, ta carte qui change tous les jours, des nouvelles créations, ça sort d'où? Et surtout, comment tu fais?
Comment je fais? Alors déjà, la base, c'est qu'on commande nous énormément, donc tous les jours, tous les 2 jours, on commande des nouveaux produits. Donc on part comme ça, en fait, suivant, on commande énormément, enfin on commande énormément, on passe, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recette établie à l'avance, c'est-à-dire qu'on va commander, voilà, tel produit, et une fois qu'on a la cam sous nos yeux, on commence à créer, tu vois. Voilà. Et après, la création, je te dis, elle vient donc quand on a le produit sous les yeux, et après, voilà, donc Instagram, hein, Instagram, moi je regarde plein de recettes tous les jours. Voilà, c'est beaucoup de. Tu vois, je reproduis pas exactement les mêmes recettes évidemment, mais je vais prendre la base de la recette que j'ai vue sur Insta et je vais la modifier ensuite à ma sauce. Et voilà, et ensuite la créa, voilà, c'est comme ça, hein, tac tac tac, ouais.
Ça se fait comme ça. Hier, on a
C'est
mangé
ça.
un truc. Bon,
Non, mais
si vous
ça.
écoutez ce podcast à l'heure où vous avez faim, c'est pas ouf.
Non, c'est vraiment pas fou.
On a mangé un truc qui m'a surpris. Moi, je pense que c'est l'un des meilleurs plats. On a mangé
Ouais.
déjà du poulpe avec du cognac. Donc, ça, bon, ça c'est déjà fait, mais c'était quand même ouf. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est la patate douce avec
Du kiwi.
du kiwi. Et il y
Ouais.
avait quoi d'autre comme agrumes?
Et puis je rebondis juste sur ce
Ouais.
que j'ai dit, Insta, mais il y a aussi beaucoup de bouquins, hein, pour
Ouais.
la créa, beaucoup de
Bah ouais.
bouquins, voilà. Donc, et la patate douce, ouais, la patate douce.
Fameuse patate douce.
je crois qu'elle nous a tous surpris
Elle nous a tous
hier.
surpris,
Ah,
ouais.
franchement.
C'est patate douce, ouais, cuite au four, dans du gros sel, comme pour des pommes de terre, pour les gnocchis. Voilà, on vient récupérer la chair de la patate douce. La peau, on la met de côté, on la frit, on la mixe avec des croutons et des pignons de pain. Donc ça, le mélange pignon de pain crouton, ça s'appelle une picada. Et la picada, voilà, donc c'est crouton, pignon de pain au four qu'on mixe avec le crumble de pommes de terre, donc les peaux frites. Et voilà, donc ensuite on fait un beignet avec l'appareil, enfin la pâte à patate douce. On fait une brunoise de kiwi. On fait un siphon ricotta salata, qui est un fromage très salé, très fumé. On met une huile de poireau par-dessus et des petites feuilles de tagette.
Folie. Voilà. Folie. Ouais. Ce qui est bien aussi, comme nous en avez parlé, moi j'étais déjà venu aussi manger le midi. Et ce qui est bien le soir, c'est qu'il y a plein d'assiettes et qu'en fait on a pu tous les partager. Donc en fait, on a presque goûté toute la carte, pratiquement. Mmh. Et tout était ouf. Et c'est ce truc de partage, d'avoir, ouais, de goûter plein de trucs différents. Et donc à la fin, tu sors, bah, tu peux plus bouffer parce que t'en peux plus, t'as trop mangé. Mais au moins, t'as goûté chaque spécialité ou chaque truc à la carte.
Ouais, bah, quoi, c'est, bah, ce côté-là où justement, il n'y a pas chacun qui est là, entre guillemets, la tête dans son plat et qui va se concentrer justement sur son plat. Là, le côté qu'on a eu hier soir, que j'ai trouvé merveilleux, c'est que bah, t'allais piquer dans l'assiette du voisin, ouais, juste à côté. Et ouais, on regarde tous nos têtes autour de l'assiette. C'est-à-dire, au moment de patate douce kiwi, on s'est tous
ça
regardé.
Ça s'est battu là.
On s'est regardé, on a fait « Ah oui, quand même, il est fort
». Est-ce que sur ça, vous avez une expérience, bon, hier soir, mais est-ce que vous avez une expérience, même toi, comme d'un moment, d'un bar ou d'un... Non, pardon, pas d'un bar, d'un bistrot ou d'un resto, d'un gastro, un truc qui vous a vraiment mis sur le cul, un truc que vous êtes pris une claque au niveau de la cuisine, etc.
Bah moi, c'est pas en tant que client, mais c'est en tant que stagiaire. Moi, mon premier stage, je l'ai fait dans un étoilé Michelin, une étoile Michelin qui était à Montbazillac. Et je pense que c'est à ce stage-là, ouais, que j'ai pris plusieurs claques. J'ai goûté plein de trucs.
Parlant,
ouais, culinairement parlant, vraiment, vraiment, j'étais impressionné. Ouais, puis j'étais jeune, j'avais 16 ans. Je pense que c'est à ce moment-là. Voilà. Après, en tant que client, je n'ai jamais fait d'étoilé. Après, j'ai pris des claques quand même dans certains restos. Mais je pense que ouais, les souvenirs de première claque, c'était vraiment dans mes premiers stages, dans certains étoilés ou certaines... Même certains bistrots. Hein.
Oui, tu peux, ouais, te prendre une très bonne claque, ah ouais, ouais, dans un bistrot,
évidemment,
ou d'un bistronomique plus que dans un étoilé.
Évidemment, ouais, ouais.
Souvent. Toi, t'as une anecdote là-dessus ?
Ouais, ouais, c'était dans les premières fois où je venais à Paris. Et avec de la famille, on était partis donc à un bar. Je sais même pas si ça existe encore, mais ça s'appelait La Tomette. Mmh. Et justement, sur ces principes de plats à partager, etc. Et vraiment, côté bistrot, avec une belle offre de vin aussi, parce que c'est important.
Ça va avec, hein.
Ça va avec. Et ouais, ça a été une des premières claques où tu dis, oh, t'as des saveurs que tu connais pas. Tu commences à dire, c'est intéressant. Et après, au final, tu t'aperçois que tu commandes à peu près toute la carte. Parce que t'as soif de savoir, on va dire.
Un truc qu'on disait aussi, je pense, en général et hier, il y a ce que tu manges, il y a l'endroit où tu manges, et il y a surtout avec qui tu partages ce repas.
Ouais.
Je sais pas votre regard sur ça, mais ce que me disait Antoine hier, c'est que pour lui, quand il partage un repas ou qu'il bouffe avec quelqu'un, c'est autant important la bouffe que les gens avec qui il est.
Ouais, grave.
Je trouve ça ouf.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est marrant, je sais pas.
Toi, je pense pas.
Moi, j'aime bien, si tu veux, quand les gens viennent. Bon, je vais parler du soir dans mon restaurant. Quand les gens viennent manger le soir, j'aime bien que, voilà, que tu viennes avec n'importe qui. Voilà, tu commandes et puis et justement tu, je sais pas moi, voilà, tu commandes la patate douce et tu vas être surpris et tu vas faire goûter à tout le monde à la table et puis ça va recommander la carte. Je pense que je sais pas, après ça dépend, ouais, ça dépend peut-être le resto où tu vas, voilà, c'est sûr que tu vas pas dans n'importe quel resto avec n'importe qui, mais
je pense que tu peux partager aussi avec tout le monde et
ouais
que...
je pense qu'avec n'importe qui l'expérience peut être folle, ouais.
Ça rapproche aussi, hein. Ouais. Ça rapproche quand tu fais moite-moite sur un groupe où tu t'aperçois que tu connais pas la moitié, mais que par contre tu passes un bon moment au restaurant et que au final tu t'aperçois que ouais, tu vas quand même parler, de ce que t'as dans l'assiette. Ah, ça rapproche et c'est important.
J'ai une anecdote perso. Quand j'étais petit, je détestais le saumon fumé ou le saumon tout court, et mes parents m'ont dit tu goûtes, ils m'ont toujours dit tu goûtes, t'as le droit de dire que t'aimes pas. Parce qu'on parlait des goûts tout à l'heure et de sortir de sa zone de confort. Et il me disait, tu goûtes, t'as le droit de dire que t'aimes pas, tu recraches, tu fais ce que tu veux, mais au moins t'as goûté.
Ouais.
Ça m'a fait ça sur ma chaise haute quand j'étais vraiment tout bébé avec du saumon. Et depuis, c'est le truc. Je peux manger ça matin, midi, soir, saumon fumé, tout ce que tu veux. Est-ce que vous arrivez à sortir de cette zone-là et de vous dire, bah tiens, il y a quelques années, j'aimais pas ce truc-là. Maintenant, je vais tester et let's go, quoi. Est-ce que vous faites cette part-là dans votre tête?
Ouais, carrément. Bah moi, j'ai pas le choix. Hein. je t'avoue. Moi, jeune, je mangeais aucun légume. Moi, durant l'adolescence, je mangeais pas de légumes du tout. J'étais pas. Et pourtant, j'étais en cuisine. Hein, et j'étais pas du tout. Mais voilà, j'étais pas encore dans la création. Je faisais qu'exécuter des ordres, en fait. J'avais pas une alimentation très très saine, à vrai dire. Mais maintenant, carrément, maintenant, je dis que j'ai pas le choix, mais c'est que c'est voulu, c'est volontaire, oui, c'est aussi, évidemment sûr. Volontaire. Et c'est hyper important de goûter à tout et de goûter vraiment à tout, quoi. Même les abats, même les spéciaux, trucs, qui donnent pas forcément envie sur le papier au début, mais. Et tu vois, je sais pas, je vous ai fait goûter par exemple hier soir les riz de veau.
C'est pas commun, on en mange pas souvent. Hein.
Et en fait, voilà, moi les riz de veau, c'est sûr que c'est pas un truc comme ça sur le papier qui donne très envie. C'est un produit très très fort de base, mais moi je le frie, voilà, je mets une sauce moutardée par-dessus avec un petit fruit qui s'appelle le kumquat. Voilà, une petite tranche de citron à côté, et ça vient vraiment casser le goût. Très fort du riz de veau et voilà, moi ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir
c'était cool, ça aussi, hein. Belle surprise, hein.
Les riz de veau,
toi aussi t'arrives à...
Alors quand t'es arrivé avec la petite assiette, on s'est dit, je l'avais vu sur la carte.
Moi aussi j'avais pas osé la prendre parce que c'est un truc qu'on mange jamais,
et Jules et Tanguy étaient à côté avec un regard ébahi en se disant c'est quoi. Je regarde en cuisine, c'est bon, c'est les riz de veau. Et ouais, ça a été une belle surprise, mais pour rebondir.
Toi aussi, t'arrives à sortir de ta zone de confort.
J'essaye de plus en plus. J'essaye de plus en plus, justement, d'essayer de découvrir des nouvelles saveurs et surtout me dire, bon, ce que t'aimais pas avant, c'est pas quelque chose qui est défini toute ta vie. Par exemple, alors, truc bête, le fromage.
Ah, moi aussi, je suis en train de devenir très fromage. Avocat aussi, je détestais avant.
Avocat.
Ouais, maintenant c'est
c'est comme le saumon, bizarrement, ouais, ça va ensemble.
Ça va ensemble comme par hasard. Maintenant, sushi, c'est une folie. Ouais, mais avocat, j'ai pas encore passé le cap des huîtres. Je trouve ça horrible.
Ouais, moi non plus.
Genre, j'ai l'impression de boire la tasse, mais c'est ce que les gens aiment souvent, c'est l'odeur de la mer, enfin le goût de la mer, mais on verra après.
L'odeur iodée.
Ouais, donc j'arrive pas non plus à sortir de ma zone de confort, tu vois. Est-ce qu'on a des bonnes adresses à Paris, et est-ce que vous avez en tête des tout doux? Ou des The Place to Be. Bon, il y a l'Orion.
Il y a l'Orion,
évidemment. Grosse pub pour l'Orion. Grosse pub pour l'Orion, c'était fou. Mais d'autres trucs.
Là, comme ça, qui me vient en tête. Des coups de cœur à Paris. Non, moi, je te dis, je traîne beaucoup à Belleville. Moi, j'ai pas vraiment de bons restos aussi. À côté de l'Orion, il y a Bouche, le restaurant Bouche, qui est un très bon resto. Gram aussi, qui est pas loin. Ce serait ça, je pense, les deux adresses les plus proches de l'Orion. Il y a les œillets aussi, où je fais un pop-up en mars, d'ailleurs.
Boum, combien en mars?
Je sais pas encore.
Ah, c'est l'heure dit. Ouais. Suivez Koum sur Instagram et suivez ça, vous allez voir. Petit pop-up en mars.
Ouais.
Pas mal. Ok. Et toi, Antoine? C'est tout? Ouais.
Ouais.
Et toi, Antoine?
Là, de tête, très compliqué d'en sortir parce qu'en général, je vais dans un resto et je me dis, en fait, c'est un truc bête, mais tu ne notes pas l'adresse.
Ouais.
Mais que forcément, ça te revient au moment où tu commences à chercher une adresse. Tu dis, là, j'avais bien mangé. Il y avait un truc que j'ai retesté il n'y a pas longtemps. C'était Schwartz, donc ouais. Le resto de pastrami, etc.
Ça, c'est lourd.
Quelque chose que j'avais compté la première fois, c'était à Montréal, ouais. Justement, et que j'ai redécouvert à Paris. Donc, franchement, c'était
dans le 17e. Enfin, il y en a plusieurs, mais
il y en a plusieurs à Paris, ouais. Du coup, ouais, il y en a un dans le 17e, il me semble. Et après des adresses. Entre guillemets confidentiel, hein. J'en ai pas forcément de tête là, mais ouais, quelque chose je pourrais.
Je suis allé chez Schwartz il y a genre peut-être 2 mois, et j'ai un pote à moi qui m'a dit goûte le burger et tout, c'est une folie. Hein, genre. J'ai pas du tout aimé le burger, et en fait j'aurais dû prendre le classique, c'est-à-dire le pastrami burger, enfin le pastrami sandwich et je l'ai pas fait, je l'ai goûté.
Le petit classique.
Ouais, j'y retournerai, tant pis. Ok, bah ça c'est pas mal, des petits trocos gastro sur Paris, c'est pas mal. Comment on voit, enfin, qu'est-ce que vous pensez du regard des autres pays sur notre gastronomie? Parce que pour les touristes et pour les gens qui viennent en France, c'est le vin, la bouffe, et c'est tout. Enfin, et les monuments, mais c'est quoi votre regard là-dessus? Sur l'image qu'on dégage...
Ok, sur l'image que la cuisine française...
dégage à l'étranger.
À l'étranger. Ah. Ouais, je pense que pour beaucoup de cuisiniers du monde entier, la cuisine française est la base de beaucoup de cuisine. Hein. Je pense pas, enfin je dirais en aucun cas qu'elle est meilleure qu'une autre, mais en tout cas c'est la base de beaucoup de cuisines dans le monde entier. Après voilà, elle est pas meilleure que, enfin j'ai pas la prétention de dire qu'elle est meilleure qu'une autre, même si j'en pense pas moins quand je pense à certains pays, mais voilà, le Japon par exemple a,
c'est fort,
les Japonais sont très très forts aussi, hein. Et eux, ils ont, pour le coup, ils ont des bases que nous n'avons pas. Mais c'est sûr que, voilà, je pense, dans la tête de beaucoup de gens étrangers, la cuisine française est une des meilleures du monde.
Après, je sais pas si on a encore le même rayonnement qu'avant.
Ouais.
Je pense que c'est détérioré. Après, t'as aussi le fait que on ait pu découvrir énormément de cultures culture et de bouffes différentes. Mais je pense que, ouais, comme tu dis, c'est quelque chose qui reste en tout cas la base. Et tu verras toujours des touristes dans les bistrots à Paris. Hein. Ça, c'est
indéniable. Et puis, au-delà de bases culinaires, comme, je sais pas, enfin, au-delà de bases concrètes, comme les sauces, comme des cuissons, c'est même toute la hiérarchie qu'il y a en cuisine, tous les termes utilisés.
Le savoir-faire.
Même les noms des... ouais, je te dis le nom, voilà, sous-chef, tout ça vient de France, hein. ça vient de Auguste Escoffier, Auguste Escoffier, c'est un peu le dieu pour beaucoup de cuisiniers français et même cuisiniers du monde, parce que c'est vraiment c'est le monsieur qui a créé cette hiérarchie, créé tous ces termes, créé plein de techniques culinaires, qui a créé plein de sauces, qui a mis énormément de noms sur des termes, sur plein de choses qu'il n'y avait pas avant.
On a pris la conscience, je pense, nous, notre génération, de bien bouffer, de mieux bouffer, tout en restant à des prix assez abordables, parce qu'on est souvent étudiant, on fait gaffe à nos budgets, etc. Est-ce qu'on a des tips à donner aux gens qui nous écoutent pour essayer de diminuer cette fast consommation, même si un burger, ça fait toujours du bien, un bon McDo en lendemain de soirée, c'est une dinguerie? Est-ce que vous avez des tips pour essayer de mieux s'approvisionner, de choisir de meilleurs produits, tout en restant assez smart en budget, etc.
Je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais voilà, des produits locaux, aller au marché, hein. Il faut aller au marché, se lever tôt, c'est le seul truc. Se lever tôt, aller au marché, ou alors même en fin de marché. Hein, en fin de marché, moi je fais souvent ça, fin de marché vers midi, 13h. Il y a les poissonniers, par exemple, les poissonneries, ils te vendent des poissons pas chers, parce que c'est les poissons qui restent, voilà, donc ça c'est un petit tricks. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas en allant dans les petites supérettes dans le 11e qui proposent des produits locaux. Bon, là, c'est sûr que c'est pas ici qu'il y aura les bons tarifs, mais ouais, les marchés, marchés, marchés.
Non, les marchés, ouais, c'est quand même la bonne solution.
Et après, si on parle vraiment de restaurants, il y a plein de cantines, petites cantines solidaires. Moi, ce midi, j'ai mangé à une cuisine africaine, une petite cantine africaine qui est juste à côté de l'Orion. Voilà, j'en ai eu pour, c'était 8 euros le poulet, il y a ça. Voilà.
Ça va, c'est bien.
Ouais, bah oui, c'est bien.
Il y a aussi l'aide, je pense, je ne l'avais pas marqué dans les choses que je voulais aborder avec vous, mais j'ai l'exemple d'un mec qui s'appelle Yovan, je ne sais pas si vous connaissez, il a créé Delivered. C'est une application qui reprend le même système que Deliveroo, mais en voulant aider les gens. Donc c'est un mélange entre les Restos du Cœur et Deliveroo.
Mmh.
Et en fait, tu t'inscris sur son site et tu peux recevoir un panier repas pour les étudiants. Donc il faut que tu justifies ta situation, etc. Et anonymement, les mecs viennent en bas de chez toi pour te livrer chaque jour un panier pour de la bouffe. Et ça, je trouve ça ouf. Et je me suis dit, on peut pas parler, je viens d'y penser maintenant, on peut pas parler de bouffe sans parler l'entraide et du problème de notre génération pour se nourrir.
Grave.
Je trouve ça ouf.
Il y a il y a une application qui avait été créée aussi pour... comment ça s'appelait ? C'est à La Rochelle que j'avais découvert ça. J'ai oublié le nom de l'application.
Too Good To Go ?
Too Good To Go, ouais. Exactement.
Folie, ouais. Ça aussi.
Voilà, ah, folie, ouais. Ça. Ouais, et ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est une application qui... Donc, tu vas sur l'application et ça te propose, si tu veux, des paniers que des restaurateurs créent avec leurs restes, en fait. Voilà. Donc, ça... Moi, je me souviens, j'avais fait ça avec un restaurant japonais à La Rochelle. J'avais pris, je crois que c'était 10 euros le panier et j'en avais eu pour 30 euros de cam, quoi. Ouais.
Tu fais des économies, déjà, et surtout tu fais pas de gâchis.
Il y a pas de gâchis, quoi.
Ouais. T'as déjà fait ça, Too Good To Go?
Ouais, j'ai déjà fait, et c'est surtout, en fait, j'y suis retourné il y a pas longtemps, et tu t'aperçois qu'en fait, t'as quand même de plus en plus de commerces à Paris qui justement proposent un Too Good To Go, et tu t'aperçois, au final, ouais, ça peut être vraiment un bon plan, et tu vois, même, t'as pas mal de boulangeries qui font ça,
ouais.
Donc au final, tu peux te retrouver avec, je pense... Ouais, on n'a pas forcément le réflexe de tout le temps prendre du pain ou un truc comme ça, mais au final, tu t'aperçois que bah voilà, tu vas sur un Too Good To Go pour une boulangerie.
Je trouve aussi que c'est intéressant pour tout le monde, même pour le restaurateur ou le commerce. Il vend parce que dans tous les cas, il ne le jette pas. Et surtout, il gagne quand même aussi de l'argent là-dessus.
Il y a une boulangerie à côté de chez moi qui propose que les invendus de boulangerie. Donc, tu vois, ils bossent avec une vingtaine de boulangeries. Et voilà, du coup, ça, tu te retrouves avec des produits trois fois moins chers. Et ça, c'est super. Il n'y a pas de perte. Et nous, on est gagnants, quoi.
Ouais, clairement.
Est-ce que vous avez d'autres sujets à aborder ? Vous voulez parler d'autres choses ? Ou pas ?
On est déjà à la fin.
Ouais, les gars. Ah ouais.
Ça va vite. Ça va, au final.
Je voulais voir avec toi, quoi. Vas-y, toi. Qu'est-ce que tu penses des... Tu sais, justement, quand tu parlais, Jules, des TikTok, etc. Tu sais, tous les restos un peu d'ambiance...
Ah oui,
en général,
on a parlé de ça hier. Ouais.
On a parlé de ça hier.
Parce qu'Antoine a fait une expérience au Bouddha Bar et ouais, il a été déçu de la bouffe.
Ouais, tu manges bon, correctement. On va pas tirer, mais tu manges correctement, mais pour cher. Et en fait, tu t'aperçois qu'au final, ce système-là, bah, il est reproduit un peu partout. Et voilà, je me posais la question sur ton avis.
La cuisine, c'est quand même vachement plus à la mode qu'il y a quelques années. Il y a tout un truc aussi où la cuisine, ça a été vachement plus... C'est vachement plus médiatisé. Maintenant, il y a des émissions de télé sur la cuisine, chose qu'il n'y avait pas il y a 20-30 ans, quoi. Donc non, après, bah, il faut tout. Après, c'est vrai que moi, en tant que cuisinier... moi, j'aime, si tu veux, quand le client vient, j'aime... tu vois, nous, on parlait du poulpe hier, qu'on mettait pas cher à la carte parce qu'en fait, on l'a pas eu cher. On l'a pas eu cher à la base. Et on va pas le mettre cher parce que les. Et en fait, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a plein de restaurateurs qui vont mettre le poulpe cher parce que c'est un produit qui est dans la tête des gens et cher. Ouais. Alors qu'au final, non, nous, on l'a pas eu cher parce que je vous disais, ça dépend des marais, ça dépend des pêches.
Des arrivages, etc.
Ça dépend des arrivages. Et moi, justement, ça me fait plaisir de pouvoir mettre un poulpe à la carte à 13 euros. Ou même pouvoir, je sais pas, moi, mettre... quand c'était la saison des Saint-Jacques, on avait mis des Saint-Jacques en entrée dans notre formule entrée plat dessert à 22 euros, tu vois.
Et moi, c'est quand même fou.
C'est quand même... moi, j'ai des copains, voilà, étudiants qui sont venus manger. Je me souviens, un jour, on avait des Saint-Jacques à la carte. Ils n'avaient jamais mangé de Saint-Jacques. Et voilà, moi, je suis heureux de pouvoir faire partager des produits comme ça à des prix totalement honnêtes.
Et pas forcément faire un resto festif et ne manger pas des trucs de ouf, quoi.
Ouais, voilà.
Après, il en faut ce que tu dis.
Il en faut.
Tu payes l'ambiance, tu payes le cadre.
Voilà, il faut pas non plus... Voilà, il faut pas jouer... c'est vrai qu'il y en a un peu trop pour moi, quoi. Il faut des fois revenir à des trucs un peu plus simples. Mais bon, voilà.
On aime la simplicité.
Petit menu à 22 euros, entrée plat dessert.
Tout va bien.
Il y a tout ce qu'il faut. On mange sur le comptoir, c'est nickel. On parle avec la serveuse, le serveur.
S'il vous plaît.
On oublie trop souvent les comptoirs en zinc.
C'est pas mal. Les bons vieux comptoirs.
Les bons vieux comptoirs, ouais, c'est ça. Moi, j'ai connu. Moi, j'ai grandi en restauration. J'ai connu ça, moi, les vieux bistrots, les vieux. Les plats du jour à 12 euros, 13 euros. Voilà, moi, des fois, ça m'embête un peu quand je vois que des restos branchés à 36 euros la tentacule de poulpe.
Ouais.
Ou le plat du jour à 24 euros, alors que ça pourrait être 4 fois moins cher. Et il est vendu 24 euros parce que le chef a telle cote ou parce que c'est dans tel quartier.
C'est tout, c'est comme le domaine de l'art, c'est comme des choses comme ça, ça vaut pas forcément son prix.
Ouais, mais bon, l'art, oui, enfin bon, oui, la comparaison, et puis, ouais, je suis d'accord et pas d'accord, mais...
Est-ce que tu penses que ça va disparaître, ces bons endroits, ces...
Les bons endroits, donc les petits bistrots de quartier, les petits... Non, je pense pas, parce que je pense que je te disais, justement, ça revient, quoi, ça revient, justement, les trucs un peu trop surfaits, ça colle pas avec ce dont on parlait au début de l'interview, avec les produits locaux, avec voilà, il faut venir vraiment à des classiques. Donc justement, les bistrots de quartier, c'est justement, pour moi, c'est l'avenir, quoi. C'est on va revenir aux bases et c'est ce qu'il faut, quoi, pour le bien de tous.
Très très beau mot de fin. Très beau mot de fin. Revenez à l'essentiel. Allez manger à l'Orillon.
Allez manger à l'Orillon.
Comme vous recevrez comme un roi.
Yes.
Petite cuisine ouverte, nickel.
Ouais.
Je vous mettrai tout ça en partage, en description. Et puis bah, les gars, je vous remercie. C'était super. Maintenant j'ai faim. 20h09. Voilà, nickel. Nickel. Mais je voulais vous remercier d'être venu pour l'accueil aussi hier soir. C'était top.
Yes.
Et puis je vous dis à bientôt. Je vous laisse aller aussi suivre les jeunes d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube. Il y a aussi des formats vidéo parce que là on est en audio, mais vous pouvez aussi nous voir en vidéo. Enfin, pas cet épisode-là, mais d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, pour soutenir le projet, suivre l'aventure. Et puis on se dit à bientôt pour d'autres sujets et d'autres épisodes.
Super.
Merci beaucoup, Jules.
Et venez à l'Orillon.
Allez, voilà.
Venez à l'Orillon.
Et au pop-up aussi.
35 rue de l'Orillon.
Allez hop. Merci beaucoup.
Merci.